これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la technique, Jean-Richard Dufour.
Et à la réalisation, François Connac. Les histoires d'amour finissent mal. Surtout quand personne ne meurt à la fin et qu'il faut continuer à vivre, quoi qu'on s'aime en vain. À Rome, à Bérénice, à prince malheureux, pourquoi suis-je empereur? Pourquoi suis-je amoureux? Titus aime Bérénice, Bérénice aime Titus, Antiochus aime Bérénice qui n'aime pas Antiochus. Mais Titus est empereur et Bérénice est reine, et une reine à Rome ne devient pas impératrice. C'est ainsi, c'est comme ça. Ici-bas, les reines s'assoient, les rivaux se chérissent et les empereurs sanglotent, mais tout le monde est sublime.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Bérénice est une pièce qui n'en finit pas de finir. Une tragédie où les larmes coulent à la place du sang, où l'on dit hélas comme on respire. La simplicité y est de mise. Les visages défaits par les larmes y sont plus éloquents que toute péroraison. Mais il faut tout de même 5 actes à Titus pour congédier un amour qui n'a plus sa place à Rome, et 5 actes à Bérénice pour faire un ultime adieu à son amour et devenir in extremis une héroïne tragique.
La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut enfin. Il n'aima pas comment elle était habillée. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune, il l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda même pourquoi. C'était disproportionné, plutôt petite, pâle, je crois. Qu'elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé après coup, mais Bérénice. Drôle de superstition. Voilà bien ce qui l'irritait. Il y avait un vers de Racine que ça lui remettait dans la tête, un vers qu'il avait hanté pendant la guerre, dans les tranchées et plus tard démobilisé. Un vers qu'il ne trouvait même pas un beau vers, ou enfin dont la beauté lui semblait douteuse, inexplicable, mais qui l'avait obsédé, qui l'obsédait encore. « Je demeurai longtemps errant dans Césarée ». En général, les vers, lui... Mais celui-ci revenait et revenait. Pourquoi ? C'est ce qu'il ne s'expliquait pas. Tout à fait indépendamment de l'histoire de Bérénice, l'autre, la vraie. D'ailleurs, il ne se rappelait que dans ses grandes lignes, cette romance, cette scie. Brune, alors, la Bérénice de la tragédie. Césarée, c'est du côté d'Antioche, de Beyrouth, territoire sous mandat, assez moricaude même, des bracelets en veux-tu en voilà, et des tas de chichis, de voiles. Césarée... Un beau nom pour une ville, ou pour une femme. Un beau nom, en tout cas, Césarée. Je demeurai longtemps. Je deviens gâteux. Impossible de se souvenir comment s'appelait-il le type qui disait ça, une espèce de grand bourre ravagé, mélancolique, flemmard, avec des yeux de charbon, la malaria, qui avait attendu pour se déclarer que Bérénice fut sur le point de se mettre en ménage à Rome avec un bellâtre potelé, ayant l'air d'un marchand de tissus qui fait l'article à la manière dont il portait la toge. Tite, sans rire. Tite. Je demeurai longtemps errant dans Césarée. Ce devait être une ville aux voies larges, très vides et silencieuses, une ville frappée d'un malheur, quelque chose comme une défaite, désertée, une ville pour les hommes de 30 ans qui n'ont plus de cœur à rien, une ville de pierre à parcourir la nuit sans croire à l'aube. Aurélien voyait des chiens s'enfuir derrière des colonnes, surpris à dépecer une charogne, des épées abandonnées, des armures, les restes d'un combat sans honneur.
Voilà, de la prose d'Aragon à la place des vers de Racine.
Oui.
Et c'est pas Tite, c'est Titus, enfin.
Oui, c'est vrai, c'est Corneille qui dit Tite. Racine dit Titus. Bon, c'est pas très grave, ça. C'est pas très grave. Ce qui est, me semble-t-il, intéressant, qui justifie, je crois, le fait qu'on commence une émission sur Bérénice par le plus bel hommage qui est rendu à cette pièce, c'est-à-dire les 2 premières pages d'Aurélien d'Aragon. Chef-d'œuvre infernal. Chef-d'œuvre infernal. Ce qui justifie qu'on commence de cette façon, je crois, c'est que, Aurélien, je ne veux pas gâcher le plaisir de découvrir ce roman. Pour nos auditeurs, et peut-être même pour vous, Paola, je ne sais pas où vous en êtes.
C'est le cas.
Bon, Vous n'avez pas lu Aurélien. Ce qui n'est pas grave, ça fait de vous quelqu'un qui a beaucoup de chance. Vous allez donc le lire pour la première fois quand vous le lirez. Aurélien est un chef-d'œuvre qui, dans ses deux premières pages, dont la trame indéfiniment douloureuse, indistinctement douloureuse, est déjà contenue dans les deux premières pages, derrière l'apparat paradoxal d'abord d'un langage qui n'est pas du tout châtié, qui n'a rien à voir avec la prose racinienne, enfin avec les vers de Racine, mais également le pressentiment. C'est un pressentiment, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est un pressentiment. Il voit Bérénice, il la trouve franchement laide. Bon, ce qui est bizarre, parce qu'en fait, on s'aperçoit juste après qu'il ne l'a pas vraiment regardée. Mais enfin, elle l'énerve, elle l'agace, elle l'énerve, et elle lui rappelle ce vers. Et il ne sait plus pourquoi, ce vers-là. Et Aragon est un génie, il fait attention aux évocations de ce vers. Il décrit cette ville, une sorte de sagra déserte. En citant Antiochus de Commagène, il décrit ce que la ville lui inspire. Mais au-delà de ça, le vers que lui rappelle Bérénice, c'est le vers d'un homme qui n'est plus aimé de Bérénice, qui d'une certaine manière d'ailleurs ne l'a jamais été, et qui confesse à Bérénice l'amour qu'il continue de lui porter, alors qu'à l'instant où il lui confesse cet amour, elle s'apprête à devenir impératrice. Et donc c'est vraiment pas des choses à dire. Et pourtant il le fait. Et il le fait, et il met en place ici, il le fait alors qu'il est le meilleur ami du futur mari, c'est-à-dire de l'empereur Titus, du nouvel empereur, et il est le confident du désarroi, des problèmes, des joies de cette femme qu'il aime toujours. Et il est le confident de la femme qu'il aime et dont l'amour concerne un autre homme que lui. Donc il est dans cette position très, très inconfortable. Ce que je veux dire ici, c'est que la récurrence de ce vers, cette romance qui vient à l'esprit de Aurélien l'Eurtillois, l'athlète mondain désœuvré dont Aragon fait le personnage principal du livre éponyme, le pressentiment qui est le sien prend la forme d'un vers qui renseigne déjà sur l'échec d'un amour. Voilà, sur l'échec d'un amour, tout est contenu dans ces deux premières pages et peu de textes donnent à sentir à quel point un vers 12 pieds peuvent bouleverser, contenir un univers. Pardon, allez-y.
Oui, non, je veux dire, c'est la tragédie qui contamine le roman.
C'est la tragédie qui contamine le roman. Le roman Aurélien est une tragédie à sa manière, c'est-à-dire, littéralement, que tout est déjà écrit. Tout est déjà écrit dès le début. C'est le cas dans Bérénice, c'est le cas dans Aurélien. Et moi, je crois qu'il faut marier ces deux livres, à défaut de marier Aurélien à Bérénice ou Bérénice à Aurélien, puisque Bérénice est déjà mariée quand Aurélien la rencontre, et qu'elle est de nouveau mariée quand il la re-rencontre, donc Bérénice, elle est prise. Mais il faut marier ces deux textes et retenir du premier chronologiquement, c'est-à-dire Bérénice de Racine, c'est-à-dire le texte qui porte le nom de la femme, retenir du premier tout ce qui laisse entendre dans le second, tout ce dont l'auteur du second se sert pour laisser entendre qu'il n'est en un sens pas possible d'aimer et qu'on n'a pas besoin pour cela de considérer que le monde est une vallée de larmes, ce qui était la conception de Racine dont vous avez rappelé très justement que, et en particulier dans cette pièce, les larmes remplacent le sang. C'est vraiment le cas dans Bérénice puisqu'il n'y a pas une goutte de sang qui est versée dans cette tragédie qui, à mon avis, à cet égard, est la plus terrible de toutes.
Entendons, vous avez donné à entendre ce vers dans le passage de la première page d'Aurélien. De Césarée.
Je demeurai longtemps errant dans Césarée, lieux charmants où mon cœur vous avait adoré.
Entendons donc l'aveu d'Antiochus dans la pièce de Racine cette fois. C'est au début de la pièce, c'est l'aveu d'amour d'Antiochus à Bérénice.
Je me suis tue 5 ans, madame, et vais encore me taire plus longtemps. De mon heureux rival, j'accompagnais les armes. J'espérais de verser mon sang qu'après mes larmes, ou qu'au moins jusqu'à vous, porté par 1000 exploits, mon nom pourrait parler au défaut de ma voix. Le ciel sembla promettre une fin à ma peine. Vous pleurâtes ma mort. Hélas, trop peu certaine. Inutile péril, quelle était mon erreur? La valeur de Titus surpassait ma fureur. Il faut qu'à sa vertu mon estime réponde. Quoiqu'attendu, madame, à l'empire du monde, chérie de l'univers, enfin aimée de vous, il semblait à lui seul appeler tous les coups, tandis que sans espoir, haï, lassé de vivre, son malheureux rival ne semblait que le suivre. Je vois que votre cœur m'applaudit en secret. Je vois que l'on m'écoute avec moins de regret. et que trop attentive à ce récit funeste en faveur de Titus, vous pardonnez le reste. Enfin, après un siège aussi cruel que lent, il dompta les mutins, reste pâle et sanglant des flammes, de la faim, des fureurs intestines, et laissa leurs remparts cachés sous leurs ruines. Rome vous vit, madame, arriver avec lui. Dans l'Orient désert, quel devint mon ennui. Je demeurai longtemps errant dans Césarée, lieu charmant, où mon cœur vous avait adoré. Je vous redemandais à vos tristes états, je cherchais en pleurant les traces de vos pas. Mais enfin, succombant à ma mélancolie, mon désespoir tourna mes pas vers l'Italie. Le sort m'y réservait le dernier de ses coups. Titus, en m'embrassant, m'amena devant vous. Un voile d'amitié vous trompa l'un et l'autre, et mon amour devint le confident du vôtre. Mais toujours quelque espoir flattait mes déplaisirs. Rome, Vespasien, traversait vos soupirs. Après tant de combats, Titus cédait peut-être. Vespasien est mort, et Titus est le maître. Que ne fuyais-je alors? J'ai voulu, quelques jours de son nouvel empire, examiner le cours. Mon sort est accompli. Votre gloire s'apprête. Assez d'autres, sans moi, témoins de cette fête, à vos heureux transports viendront joindre les leurs. Pour moi, qui ne pourrais y mêler que des pleurs, d'un inutile amour trop constante victime, heureux dans mes malheurs d'en avoir pu, sans crime, compter toute l'histoire aux yeux qui les ont faits, je pars plus amoureux que je ne fus jamais.
On a envie de se perdre dans cette réplique de Titus, tellement il y a de choses à dire.
D'Antiochus. C'est pas grave, non, c'est bien. Antiochus de Commagène, grande victime de cette pièce. Cette pièce aurait pu s'appeler Antiochus, d'ailleurs. Pour mémoire, rappelons le dispositif, si vous voulez bien, Paola. Titus aime Bérénice, Bérénice aime Titus, Titus est empereur. Or, depuis que Rome ne tolère plus la royauté, c'est-à-dire depuis la disparition des rois étrusques, Titus n'a plus le droit d'épouser une reine. On n'a plus le droit d'épouser une reine. On n'épouse pas une reine à Rome. C'est comme ça. Il y a des règles. Tout est moins immuable que cela à Rome. Voilà. On pardonne plus à Caligula d'avoir nommé son cheval consul. On pardonne plus à Néron d'avoir enflammé la ville, sa propre ville ou sa propre cité pour trouver l'inspiration, qu'on ne pardonnerait à Titus d'avoir transformé une reine en impératrice. C'est une loi immuable, oui.
Et que faire de cette hypothèse de Barthes, dans Sur Racine, qui fait de cette loi un pur fantasme et qui fait de cette loi la mauvaise foi de Titus? Et il dit... C'est une excuse, c'est un alibi.
Bon, d'abord, il a tort parce qu'effectivement, c'est une loi d'airain. C'est une loi immuable. Ça se fait pas, on peut pas. D'ailleurs, Bérénice elle-même le sent bien. À un moment, elle lui dit, mais écoutez, j'ai qu'à devenir votre maîtresse. Alors, elle lui dit pas comme ça, mais enfin, donnez-moi tout et ne me donnez rien, quoi. J'ai pas besoin d'être reine. Moi, je vous aime, c'est vous que j'aime. Je m'en fous de l'empereur, c'est pas mon problème.
Comment aviez-vous de l'air que vous respirez?
Exactement. En vérité, ce qui sert à Racine, c'est le dispositif. C'est le dispositif qui interdit à un empereur, esclave de son propre pouvoir, d'épouser la femme qu'il aime parce que, pour son malheur, cette femme qu'il aime est reine. Et c'est une loi. Vous savez, c'est comme chez Leibniz, le dieu de Leibniz est soumis aux lois de la mathématique. La différence entre le dieu de Leibniz et le dieu de Descartes, c'est que le dieu de Descartes pourrait faire que 2 et 2 fassent 5. Leibniz, le dieu de Leibniz, ne peut pas faire que 2 et 2 fassent 5. Il doit accepter que 2 et 2 fassent 4. Il y est d'une certaine façon soumis. Eh bien, tout comme le dieu de Leibniz est soumis aux vérités éternelles de la mathématique et n'est pas au-delà, eh bien, l'arbitraire de l'empereur est bordé, comme par un parapet, ou comme par un garde-fou, par une loi qui est plus forte que lui. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? La Constitution l'emporte sur celui qui est élu. En République, on le dirait comme ça. Eh bien là, la loi selon laquelle un empereur n'épouse pas une reine l'emporte sur le pouvoir absolu de l'empereur, qui n'est donc pas si absolu que ça. Donc, en ce sens-là, il a tort. Là où il a raison, c'est que, évidemment, Racine se sert de cette situation pour décrire l'impossibilité d'aimer ici-bas. C'est-à-dire, C'est là qu'il est janséniste. L'impossibilité d'aimer dans le temps. Le vrai problème de Bérénice, c'est pas qu'une loi absurde empêche un empereur d'épouser une reine. Le vrai problème de Bérénice, c'est que deux êtres qui s'aiment ne peuvent pas s'aimer. On peut pas s'aimer. Ces amours-là ne sont pas possibles. On ne joue pas avec l'éternité quand on est soi-même fait de temps, tissé de temps. Ou alors l'éternité à laquelle on peut prétendre est une éternité qui ne tourne le sentiment que vers Dieu. Et encore, il est faux de pas. On peut parler d'amour, mais on peut plus parler de sentiment à ce moment-là, quand on parle d'amour divin, vous voyez. Donc, en réalité, c'est un dispositif qui permet à Racine de faire valoir l'impossibilité d'aimer. Et c'est pour ça qu'Antiochus est tellement important. Parce qu'Antiochus, c'est celui qui concentre. C'est un rôle parfaitement inutile, Antiochus. Il ne sert à rien dans cette pièce. Oh, si, Titus lui dit, parce que Titus est lâche, il lui dit, allez, va parler à Bérénice de ma part. Bon, c'est-à-dire, fais-toi mon porte-parole, dis à Bérénice que je peux pas l'épouser, ce qui évidemment n'arrange pas celui qui aime toujours Bérénice. Juste un point là-dessus, Paola. Dans le même temps, Bérénice dit à Antiochus, confie elle-même une mission à Antiochus. Donc, ça lui donne un petit rôle dans la trame tout à fait minimale de la pièce. Mais le véritable intérêt d'Antiochus n'est pas narratif. Le véritable intérêt d'Antiochus, c'est qu'il concentre dans sa propre douleur, dans sa propre impossibilité, et on l'a entendu. Il concentre l'impossibilité d'aimer, c'est-à-dire l'impossibilité de l'amour terrestre. Voilà.
Vous avez dit un mot important, vous avez dit porte-parole. Et ce mot résonne un peu plus dans une pièce où le problème, c'est que ni Antiochus ni Bérénice n'arrivent à dire, et ils sont frappés d'aphasie. Et Antiochus est celui qui commence sa réplique par « je me suis tue 5 ans », mais qui justement est le premier à dire, à faire un aveu dans la pièce. Et c'est celui qui brise le silence.
D'abord, la scène à laquelle vous faites référence est une scène d'exposition, où l'ensemble du problème est posé. Voilà, l'ensemble du problème est posé. Antiochus, ça fait 5 ans qu'il souffre, il est le confident de la femme qu'il aime toujours, laquelle est promise à Titus et ne pourra pas l'épouser parce que Titus est empereur. C'est tout. Mais là-dessus se noue, dans les vers de Racine, une réflexion extraordinairement profonde, je crois, sur le temps, la durée des choses. Et notamment avec ces 5 ans, ces 5 années qui séparent les combats de Titus et d'Antiochus, enfin les combats, pas entre eux, mais contre l'ennemi commun, c'est-à-dire en l'occurrence contre les Juifs, la guerre que Rome mène, 5 ans séparent ces combats du moment que nous allons vivre, qui lui obéit aux règles d'unité de temps, de lieu et d'action, c'est-à-dire tout ça se passe en 24 heures, cette tragédie se noue en 24 heures dans un seul endroit. La question des 5 ans est importante, mais il n'y a pas que cela. C'est-à-dire que Antiochus s'est tu pendant 5 ans. Ça fait 5 ans que Bérénice et Titus s'aiment. Tout ça inscrit un amour dans le temps. Lui donne cette dimension temporelle. L'amour est trop large. Ce sentiment, je mets le mot entre guillemets ici, parce qu'il n'est d'amour véritable que d'amour de Dieu, même si c'est une pièce sans Dieu, mais c'est une pièce pascalienne. La misère de l'homme sans Dieu, la misère de ces êtres sans Dieu, cette misère-là... Il n'y a pas de folklore divin dans Bérénice. Il n'y a pas du tout comme dans Phèdre, je reconnus Vénus et ses feux redoutables. Non, les traits qu'on reconnaît partent des yeux de Bérénice, ne partent pas de Vénus, ni du corps d'Hippolyte. C'est de Vénus, ça n'est plus de Vénus, ce sont des yeux de Bérénice. C'est-à-dire que on est entre humains, si vous voulez, dans Bérénice. Il n'y a pas de convocation verticale, de rappel à la loi divine, au fond. Mais néanmoins, le temps est une contradiction vivante du sentiment. D'ailleurs, l'amour, lui-même, c'est bien connu, ne résiste pas au temps. L'amour n'est pas fait pour le temps. Et la récurrence des dates, des durées dans Bérénice renseigne plus profondément, je crois, que les lois de Rome sur l'impossibilité de s'aimer. Arsace, conseiller d'Antiochus, lui dit, dans 8 jours, dans 1 mois, n'importe, il faut qu'il passe, demeurez seulement, dit-il à Antiochus. Genre, attendez. Celui qui, confident d'Antiochus, lui donne le conseil de parier sur le fait que le temps joue en sa faveur parce qu'il pressent que le mariage de Titus et Bérénice est compromis, celui-là est celui qui donne de l'amour une définition médiocre. Genre, il va jeter Bérénice, vous allez récupérer les trucs. Vous allez récupérer l'histoire. Elle va venir se consoler dans vos bras. Donc, c'est d'un amour misérable dont il se fait le conseiller ou le porte-parole. Bérénice, c'est vraiment l'histoire d'un amour que le temps exaspère, que l'écrin du temps ne peut dissoudre, et qui, d'un sentiment qu'aucune temporalité ne dissipe, mais qui est trop puissant pour les contraintes humaines. Les hommes sont aux prises avec un sentiment divin. De là, l'authenticité de la douleur qui est la leur. Et derrière cette idée du temps, il y a l'idée de la splendeur des préoccupations qu'on doit avoir. Titus, Bérénice, Antiochus sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Ils se sacrifient d'ailleurs successivement les uns les autres. Bon. Les médiocres, c'est-à-dire les suivants, les conseillers, Paulin pour Titus ou Arsace pour Antiochus, sont eux les porte-parole, soit du fait que le temps joue en faveur d'Antiochus parce que Titus va jeter Bérénice, ou bien les porte-parole de la raison d'État. Paulin dit « Au ciel que je crains ce combat », juste avant l'entrevue de Titus et Bérénice, l'entrevue fatale, « Grand Dieu, sauvez sa gloire et l'honneur de l'État ». Tous ceux qui défendent la possibilité de s'en sortir sont les médiocres porte-paroles de considérations bassement humaines, alors qu'il s'agit dans cette pièce, faute de pouvoir s'aimer, c'est-à-dire faute d'avoir les épaules pour s'aimer, c'est-à-dire faute d'inscrire l'éternité dans le temps, eh bien, il reste à tous ces personnages, Antiochus, Titus et Bérénice, la seule ressource d'être magnifique, d'être sublime. C'est leur seul échappatoire. Et c'est de cette façon, d'ailleurs, qu'ils s'en sortent sans mourir, se condamnant eux-mêmes, d'ailleurs, à une existence plus douloureuse que la mort, puisqu'ils meurent de leur vivant à la possibilité même d'un bonheur.
Je n'écoute plus rien, et pour jamais, adieu. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mères me séparent de vous? Que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice.
Peut-être pour dire encore quelques mots de cette problématique du temps dans Bérénice, j'ai dit que hélas revenait à tout bout de champ dans la pièce, mais oui, il y a une expression récurrente, c'est pour jamais aussi.
Ah oui, bien sûr. Alors, pour jamais, c'est très important, parce que pour jamais, c'est l'éternité qu'on décide. C'est une façon pour les uns et les autres de se mettre à la hauteur de l'éternité qui contrarie leurs amours. Mais même, dans la vie, tout un chacun, vous, moi, il y a toujours des moments où on prend des décisions éternelles. On dit pour jamais, je la déteste pour toujours ou pour jamais. Voilà, il y a toujours des... On a là, dans l'existence, dans le temps de la vie, ce temps mêlé de matière, souillé de hasard, qui impose d'être prudent et donc de ne pas faire de prévisions trop lointaines. On a à l'intérieur de ce temps, de cet écrin temporel, la tentation d'injecter de l'éternité en disant « pour jamais, c'est comme ça, c'est pas autrement ». Vous savez, en général, ça va avec le grand âge. Quand on avance en âge, on a une petite tendance, vous savez, à la rigidité de ses principes. « C'est comme ça, c'est pas autrement ». Vous voyez, on introduit de la radicalité, de l'indiscutable, de l'éternel à l'intérieur de la matière molle des temporalités humaines. Et alors, chez Bérénice, ça prend la forme d'un pour jamais qui revient comme une...
C'est le cri de la volonté.
C'est le cri de la volonté, oui. C'est le cri de la volonté. Alors, Antiochus à Arsace au début de la pièce, hein, qui doit partir, demande Arsace, moi, vous et oui, il dit Antiochus, en sortant du palais, je sors de Rome, Arsace, et j'en sors pour jamais. Un peu plus loin, Arsace lui dit, vous le savez, en bannissant ses rois, Rome, à ce nom si noble et si saint autrefois, attache pour jamais une haine puissante. Et quoi qu'à ses Césars, fidèles, obéissantes, cette haine, Seigneur, reste de sa fierté, survit dans tous les cœurs après la liberté. En d'autres termes, pour jamais, un empereur ne pourra jamais épouser une reine. Titus, un peu plus loin, lui-même, parlant de Bérénice, dit « Pour jamais je vais m'en séparer. Mon cœur en ce moment ne vient pas de se rendre. Si je t'ai fait parler, si j'ai voulu t'entendre, je voulais que ton zèle achevât en secret de confondre un amour qui se tait à regret. » Il le dit à Paulin. Antiochus, un peu plus tard, surpris d'entendre Titus lui demander d'aller parler à Bérénice, dit « Moi, paraître à ses yeux, la reine pour jamais a reçu mes adieux. » Bérénice elle-même, parlant à Antiochus, demandant à Antiochus de se faire son propre émissaire auprès de Titus, lui dit « Prince, dès ce moment, contentez mes souhaits ou soyez de ma haine assurée pour jamais. » Quand elle lui fait une sorte de chantage affectif.
Juste pour contrebalancer, Titus, à un moment, dit quand même « Maintenant que je l'aime encore plus que jamais. » Mais c'est un autre usage du jamais.
C'est un autre usage du jamais, mais c'est vrai que l'expression est très intéressante, parce que l'aimer plus que jamais, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il n'y a pas plus plein que le plein, comme dirait notre ami Nicolas Grimaldi. Il n'existe pas d'éternité plus vaste que l'éternité elle-même. Donc plus que jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, plus que jamais? Aimer plus que jamais, c'est désirer, c'est aimer moins que jamais, c'est aimer dans le temps qu'on dispose. Vous savez, à la fin de « Faisons un rêve » de Guitry, j'y pense maintenant, je cite de mémoire, la femme adultère qui a découché, c'est la première pièce du théâtre français qui décrit une femme qui découche. Et Jacqueline de Lubac, dans l'adaptation cinématographique que Guitry a proposée de sa pièce, il fait dire à la femme à la fin de la pièce, mais... Alors c'est merveilleux, dit-elle à son amant, on en a pour la vie, ou quelque chose comme ça. Et lui, il lui répond, mais mieux que ça. Et elle lui dit, on a la vie devant nous. Et il lui répond, mais mieux que ça, on a le week-end. Et oui, c'est-à-dire que la surenchère que l'humanité peut faire sur l'éternité des sentiments dont elle n'est pas capable elle-même, ou pour lesquels elle n'est pas constituée, composée, puisque nos vies sont provisoires, cette surenchère prend la forme d'une minoration, d'une certaine façon. Aimer plus que jamais, c'est aimer maintenant. C'est aimer tout de suite, c'est désirer. C'est désirer un corps qui lui-même s'expose à s'abîmer, à se défaire. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les deux seules didascalies qu'il y a dans Bérénice décrivent le corps de Bérénice. La première pour dire qu'elle s'assoit, geste par lequel elle renonce, elle se départit de sa grandeur royale. La seconde pour dire qu'elle se lève. Au moment où elle-même devient sublime, justement, c'est-à-dire au moment où elle-même accepte de se sacrifier. Mais le plus que jamais est très différent du pour jamais, puisque le pour jamais, c'est le cri de la volonté, comme vous l'avez dit ici, justement, l'expression est très belle. Le plus que jamais, c'est pas le cri de la volonté, c'est le cri du désir. C'est le cri du désir, c'est-à-dire c'est l'inscription d'un désir mortel, périssable, dans l'ordre immortel ou éternel, lui. Et encore une fois, je suis gêné parce que je ne veux pas employer ce mot, du sentiment. Pour jamais, vraiment, ce cri de la volonté, que voulez-vous ? C'est un cri qui peut prendre la forme aussi de la désolation, de la déploration, et juste pour le plaisir. Il faut bien que nos auditeurs aient ça en tête, parce que Bérénice, qui est peut-être la plus belle pièce de Racine, en tout cas, est la pièce dans laquelle se trouvent les plus beaux vers de Racine, à mon sens, qui sont les suivants. « Je n'écoute plus rien, et pour jamais, adieu. » Pour jamais ? Ah Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous ? Que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Ces vers sublimes, Paola, ces vers sublimes, alors inscrive le pour jamais cette fois-ci, dans le régime de la supplication. Ah Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Cruel, c'est-à-dire sanglant. Hein. Il faut bien s'en souvenir. Cruauté, ça vient de cruor, qui veut dire le sang. Donc la cruauté fait couler le sang. Et ici, le sang n'a pas besoin de couler, puisque vous l'avez vous-même dit justement, les larmes le remplacent avantageusement.
Peut-être pourrions-nous entendre, avant d'entendre entièrement le passage que vous avez cité, auquel vous faisiez référence, le moment où Bérénice fait part de sa vision, donc de la naissance de son amour pour Titus, à sa conseillère, à sa suivante Phénice.
Ah, vous avez Andromaque en tête.
Exactement.
Ok, on va l'entendre alors.
Titus n'a point encore expliqué sa pensée. Rome vous voit, madame, avec des yeux jaloux. La rigueur de ses lois m'épouvante pour vous. L'hymen, chez les Romains, n'admet qu'une Romaine. Rome hait tous les rois, et Bérénice est reine.
Le temps n'est plus, Phénice, où je pouvais trembler. Titus m'aime. Il peut tout. Il n'a plus qu'à parler. Il verra le Sénat m'apporter ses hommages, et le peuple de fleurs couronner ses images. De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur ? Tes yeux ne sont-ils pas tout pleins de sa grandeur ? Ces flambeaux, ce bûcher, cette nuit enflammée, ces aigles, ces faisceaux, ce peuple, cette armée, cette foule de rois, ces consuls, ce sénat, qui tous de mon amant empruntaient leur éclat. Cette pourpre, cet or que rehaussait sa gloire, et ces lauriers encore témoins de sa victoire, tous ces yeux, qu'on voyait venir de toutes parts confondre sur lui seul leurs avides regards. Ce port majestueux, cette douce présence. Ciel, avec quel respect et quelle complaisance tous les cœurs en secret l'assuraient de leur foi. Parle, peut-on le voir sans penser comme moi ? Qu'en quelque obscurité que le sort lui fait naître, le monde, en le voyant, eût reconnu son maître. Mais Phénis, où m'emporte un souvenir charmant ? Cependant, Rome entière, en ce même moment, fait des vœux pour Titus, et par des sacrifices, de son règne naissant, célèbre les prémices. Que tardons-nous ? Allons, pour son empire heureux, au ciel qui le protège, offrir aussi nos vœux. Aussitôt, sans l'attendre et sans être attendu, je reviens le chercher et dans cette entrevue dire tout ce qu'au cœur l'un de l'autre content inspire des transports retenus si longtemps.
Rideau bêché. Que fais-tu, Bérénice ?
Un clin d'œil à ta glace
où tes secrets se glissent.
Il y a des miroirs qui réfléchissent.
Moi, je cherche ma place.
Que les néons pâlissent
au front des palaces. J'ai ses pas en coulisses. Que ça se passe.
Vous écoutez Le Gai Savoir, une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann, et nous vous parlons de Bérénice.
Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts se faisant un passage et de sang tout couvert échauffant le carnage. Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants, dans la plaine étouffée sous le fer expirant. Peins-toi dans ces horreurs, Andromaque éperdue. Voilà comme Pyrrhus vint s'offrir à ma vue, voilà par quels exploits il sut se couronner. Enfin, voilà l'époux que tu me veux donner.
On voit que dans le passage d'Andromaque que vous avez lu, c'est une vision d'horreur, alors que même si les deux visions sont des visions guerrières, il y a un mot qui est, je trouve, très important dans le passage, dans ce que dit Bérénice, c'est le mot de douceur. Elle dit cette douce présence. Et elle dit tous ces yeux qu'on voyait venir de toutes parts confondre sur lui seul leurs avis de regard, ce port majestueux.
Ah oui, cette douce présence, bien sûr. Cette douce présence. Oui, effectivement, la présence de Pyrrhus est moins douce. Il faut un petit mot sur Andromaque. On a vu qu'il y a une différence essentielle entre Bérénice et Phèdre. Cette différence essentielle vient du fait que quand Phèdre voit Hippolyte, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, je sentis tout mon corps étransir et brûler, je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Dans Phèdre, la tragédie d'aimer, la douleur d'aimer, l'impossibilité d'aimer, l'insoluble impossibilité d'aimer, et en même temps, la condamnation à aimer celui qu'il est impossible d'aimer, prend la forme d'une malédiction, c'est-à-dire d'une malédiction divine. C'est Vénus, elle n'est pas contente, elle en veut à la famille de Phèdre depuis toujours. Ça fait un moment qu'elle leur casse les pieds en leur mettant en tête et dans le cœur des sentiments qu'ils ne peuvent pas avoir ou qu'ils n'ont pas le droit d'avoir. Donc Phèdre, ultime victime de Vénus et de ses feux redoutables, est amoureuse de son beau-fils. Ça se fait pas. Alors, ça c'est le premier point. Il y a une invocation divine qu'on ne trouve pas dans Bérénice du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. S'il y a bien une pièce, encore une fois, de la misère de l'homme sans Dieu, c'est Bérénice. Il n'y a pas Dieu dans Bérénice. Dieu n'est pas là. Très peu.
Il y a des adieux, mais il n'y a pas de Dieu.
Oui, exactement. Il y a des adieux, mais il n'y a pas de Dieu. Les adieux remplacent les dieux. C'est tout. Ils n'ont pas besoin, au fond, de l'escalier divin, du marchepied divin pour s'élever jusqu'au sublime. Il leur suffit d'être humain. Il leur suffit de vivre. Il leur suffit d'éprouver la difficulté d'aimer dans le temps, alors que l'amour n'est pas fait pour ça. Donc, il n'y a pas de recours à la divinité. Il n'y a pas de soulagement par l'explication. Phèdre peut tout à fait dire, bah, écoutez, c'est pas ma faute, c'est Vénus qui m'a mis ça dans le sang, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Bon. Là, il n'y a rien de tout ça dans Bérénice, donc il n'y a pas le recours à cela. Et il n'y a pas non plus le recours au sang, c'est-à-dire à la violence. Ça, c'est le cas d'Andromaque. La trame d'Andromaque est assez drôle, c'est un peu Hélène et les garçons, Andromaque. Oreste est amoureux d'Hermione, qui est amoureuse de Pyrrhus, qui n'est plus amoureux d'Hermione puisqu'il est amoureux d'Andromaque, laquelle est amoureuse d'Hector, qui est mort. Ça, c'est la trame d'Andromaque. Tout ça finit dans le sang. Pyrrhus est massacré par Oreste à la demande d'Hermione, qui ensuite, lui présentant son épée du sang de Pyrrhus encore toute tachée, se voit congédié par Hermione au motif qu'il ne fallait pas en croire une amante insensée. Et donc, Oreste est congédié, il devient fou, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. Il perd la raison, Hermione se tue, Andromaque se tue, Pyrrhus est tué, tout le monde est mort, tout va bien. Dans Bérénice, personne ne meurt. Il n'y a pas le recours au sang. Il n'y a pas le recours à la mort. Il faut se contenter de vivre. Et le parallèle à établir entre Andromaque et Bérénice, entre le récit énamouré du Titus magnifique qui arrive après la victoire, qui l'emporte sur ses ennemis et dont Bérénice tombe amoureuse, et le récit accablé, désespéré d'Andromaque décrivant le triomphe de Pyrrhus, la victoire à la Pyrrhus, si j'ose dire, le parallèle est à faire dans la mesure où il s'agit d'une vision, dans les deux cas, qui nous présente un spectacle qu'on ne peut pas voir sur scène parce que les règles de la bienséance nous l'interdisent. C'est un peu comme le récit que Théramène fera de la mort d'Hippolyte dans Phèdre, avec ce monstre jailli des océans. Ces deux récits ont pour fonction de présenter un paysage qu'on n'a pas le droit de voir sur scène, mais ils ont également pour effet de renseigner sur une grandeur dont les humains ne sont pas capables en définitive, et sur un amour qui est rendu impossible par le fait qu'au fond, les individus ne font dans l'existence que contrefaire la grandeur qu'ils empruntent. Ça reste des grandeurs d'établissement. Il y a, me semble-t-il, là quelque chose d'assez puissant, avec, en parallèle, comme toujours dans les deux cas, la récurrence du « hélas », qui est une façon de héler la lassitude. C'est une interpellation épuisée. Le hélas, et il faut le prendre au sérieux, c'est comme cruel qui renvoie au sang, comme ennui qui renvoie au grand désarroi, et non pas seulement au fait de s'ennuyer. Le hélas, qui n'est pas par hasard le dernier mot de la pièce de Bérénice, c'est Antiochus qui le dit, ce hélas est à entendre comme l'interjection du désespoir, l'interpellation du désespoir elle-même, du désespoir en personne. Paola.
En tout cas, dans ce passage-là, le passage de la vision de Bérénice, il n'est pas question de désespoir. C'est un moment d'illusion, c'est presque un moment de délire. Parce que c'est le moment où... Enfin, en tout cas, ce qui m'a semblé en le lisant, mais peut-être qu'en le relisant, une autre lecture me viendrait... Quand on l'oppose au vers qui précède de Phénice, qui lui dit « Mais enfin, vous êtes reine et Rome est tous les rois », Bérénice répond « Le temps n'est plus Phénice où je pouvais trembler, Titus même, il peut tout ».
Oui et non. On pourrait aller dans le sens de l'interprétation que vous donnez en rappelant que, à en croire Antiochus, Bérénice, ça l'ennuie un petit peu, quoi. Ça l'indispose de recevoir les confidences amoureuses d'un homme qu'elle prenait pour son ami et qui était en fait le rival de son mari. Et donc Antiochus dit bien, il sent bien qu'elle l'écoute poliment presque, mais qu'elle va se formaliser de cette déclaration d'Antiochus. Mais dans le même temps, elle dira d'elle-même, elle confesse elle-même à sa suivante, c'est-à-dire Phénis, non j'allais dire Céphis, c'est la suivante d'Andromaque, elle confesse à Phénis que le départ d'Antiochus lui laisse une douleur secrète. Et comment comprendre cette douleur secrète, sinon parce qu'elle a elle-même le pressentiment d'une douleur qu'elle va éprouver. Antiochus concentre toutes les douleurs qui vont être ensuite celles de Titus et Bérénice, et c'est en cela qu'il a un rôle plus important encore dans la... Non pas dans la psychologie, on ne peut pas parler de psychologie ici, mais il a un rôle très important dans le dispositif mental de cette pièce, plus encore que dans la narration où vraiment il ne sert pas à grand-chose. Elle se représente déjà sa propre douleur en songeant à la douleur d'Antiochus. Donc c'est comme si elle avait la préscience de la douleur qui serait la sienne. Et surtout, après avoir vu Titus une première fois, qui n'ose pas lui dire la première fois, on est dans l'acte 2, qui n'ose pas lui dire que ça va pas aller, qu'ils ne pourront pas se marier. Il ne sait pas comment le lui dire, donc il fuit la partie, il déserte, littéralement. Que se dit Bérénice ? Elle se persuade à ce moment-là que Antiochus a fait valoir auprès de Titus les sentiments qu'il éprouvait pour elle. Et donc elle dit ceci, « Allons, Phénix, un mot pourra le satisfaire, rassurons-nous mon cœur, je puis encore lui plaire, je me comptais trop tôt au rang des malheureux, si Titus est jaloux, Titus est amoureux. » Bon. Donc elle se dit, en gros, si Titus me dit que, me laisse entendre, me fait sentir qu'il y a un problème entre nous, ben c'est parce qu'il est jaloux. Voilà, c'est tout ce qu'elle a sous la main. Elle n'a pas d'autres informations sous la main. En vérité, elle sait très bien qu'il y a un problème et que ce problème est institutionnel, il n'est pas sentimental. C'est un problème insoluble. Et de fait, la phrase d'après, elle dit, s'adressant à Phénix, « Ne m'abandonne pas dans l'état où je suis. Hélas, pour me tromper, je fais ce que je puis. » Pour me tromper, moi-même, je fais ce que je puis.
Oui, je vous suis tout à fait pour la suite, mais je parlais de cette tirade-là particulièrement, où on a l'impression qu'elle délire. D'ailleurs, elle est dans un autre espace, elle est au moment de cette vision-là, elle n'est plus en présence de Phénix, même quand elle y parle, c'est à elle-même qu'elle parle. Mais après, je suis d'accord qu'elle essaye de masquer l'inquiétude qui la fait souffrir.
Oui, bien sûr. Mais si vous relisez attentivement cette célébration de Titus, vous allez voir quelque chose qui coince. Et c'est le début. Le temps n'est plus, Phénix, où je pouvais trembler. Titus même, il peut tout, il n'a plus qu'à parler. Il verra le Sénat m'apporter ses hommages et le peuple de fleurs couronner ses images. Le temps n'est plus, mais si, le temps est toujours. Le temps est toujours. Donc, c'est là qu'elle est de mauvaise foi, si vous voulez. C'est dans cette expression, ce syntagme qu'il faut isoler du reste de la phrase. Je crois qu'il faut le découper. Le temps n'est plus, mais si, le temps est toujours. C'est là qu'elle se berce d'illusions. Ce que je veux dire, c'est que de la même manière, Aragon est vraiment un génie, de la même manière que « Je demeurai longtemps errant dans Césarée » est un vers dont Aurélien ne sait plus, ne sait pas pourquoi il lui trotte dans la tête, mais dont la présence renseigne déjà le lecteur averti, qui en vaut deux ou trois, sur les malheurs qui attendent Aurélien et Bérénice, et la difficulté qu'ils auront à s'aimer, eh bien, de la même façon, dans la célébration de Titus par Bérénice, il y a le fond du problème, qu'elle évacue d'un revers de main en disant « Le temps n'est plus Phénix où je pouvais trembler », alors que c'est exactement le contraire. Le temps est, et par conséquent, elle va trembler. Elle ne peut que trembler. Et le simple fait de dire que le temps n'est plus où elle pouvait trembler est une façon, me semble-t-il quand même, de confesser justement la douleur qui est la sienne. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de points communs que de différences, malgré une différence objective. Andromaque n'est pas du tout amoureuse de Pyrrhus, donc elle est très malheureuse quand elle fait ce récit. Bérénice est folle d'amour de Titus, donc elle est très heureuse de le décrire comme ça. Mais pourtant, dans les deux cas, il s'agit d'une chose impossible. Alors pour Andromaque, c'est parce qu'elle aime un mort. Pour Bérénice, c'est parce qu'elle aime un empereur de Rome. Dans les deux cas, c'est impossible, mais surtout c'est impossible parce que ce sont des amours dans le temps. La mort, c'est l'éternité. Les lois de Rome, c'est l'éternité. L'amour véritable, ou l'amour en Dieu, c'est l'éternité. Mais l'amour entre les humains, c'est le temps. Et quand Bérénice dit « le temps n'est plus où je pouvais trembler », elle confesse à mots couverts la certitude qui est la sienne de bientôt trembler et d'être désespéré. Il n'y a pas de suspense. C'est ça qui rend les tragédies sublimes. Il n'y a pas de spoiler possible dans les tragédies. Ça finit mal. Bon. Alors, il y a une petite variante dans Bérénice parce qu'encore une fois, personne ne meurt. Mais il n'y a pas de spoiler. On ne peut pas gâcher la trame d'une tragédie puisque la surprise ne réside pas dans les péripéties. Toutes sont inscrites dès le début. En revanche, l'émerveillement, la surprise, la stupéfaction consiste non pas dans l'arrivée de l'imprévu, il n'y a pas de coup de théâtre dans les tragédies, ou alors c'est toujours une apparence de coup de théâtre.
Iphigénie, peut-être.
Oui, mais alors, c'est une pièce hybride, Iphigénie, puisque Racine a décidé de sauver la vie d'Iphigénie. Bon, c'est une pièce hybride avec des vers sublimes, mais c'est une pièce hybride, on pourra en parler d'ailleurs, parce que c'est un apax très singulier. Dans ce qui concerne Bérénice, ou Phèdre, ou Andromaque, l'absence totale de suspense, le déploiement d'une nécessité fait que la surprise du lecteur ne vient pas tant des ruptures, des narrations, des coups de théâtre, des renversements, etc., etc., qui ne sont que des apparences ici, que de la façon dont les choses s'accomplissent conformément à ce qu'elles doivent être. La vraie surprise, elle est là. Encore une fois, la surprise, c'est de constater que les choses deviennent ce qu'elles sont, et non pas que les choses sont différentes de ce qu'on imaginait. Qu'une chose soit différente de ce qu'on imagine peut nous surprendre, dans la mesure où on ne s'y attend pas. Mais qu'une chose soit conforme à ce qu'elle doit être nous surprend encore plus dans la mesure où on s'y attend. Et c'est exactement là que réside la surprise, la stupéfaction du lecteur qui tient autant à la beauté des vers qu'au déploiement absolument implacable d'une nécessité.
Et pour conclure et pour aller dans votre sens, quelques mots de Racine dans sa préface à Bérénice. Ce n'est point une nécessité qu'il y ait du sang et des morts dans une tragédie. Il suffit que l'action en soit grande, que les acteurs en soient héroïques, que les passions y soient excitées et que tout s'y ressente de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie.
Titus, ouvre les yeux. Quel air respires-tu? N'es-tu pas dans ces lieux où la haine des rois avec le lait sucé, par crainte ou par amour, ne peut être effacée? Rome jugea ta reine en condamnant ses rois. N'as-tu pas en naissant entendu cette voix? Et n'as-tu pas encore ouï la renommée t'annoncer ton devoir jusque dans ton armée? Et lorsque Bérénice arriva sur tes pas, ce que Rome en jugeait, ne l'entendis-tu pas? Faut-il donc tant de fois te le faire redire? Ah, lâche, fais l'amour et renonce à l'empire. Au bout de l'univers, va, courte confinée, et fais place à des cœurs plus dignes de régner. Sont cela ces projets de grandeur et de gloire qui devaient dans les cœurs consacrer ma mémoire? Depuis 8 jours, je règne, et jusque à ce jour, qu'ai-je fait pour l'honneur? J'ai tout fait pour l'amour. D'un temps si précieux, quel compte puis-je rendre? Où sont ces heureux jours que je faisais attendre? Quels pleurs ai-je séchés? Dans quels yeux satisfaits ai-je déjà goûté le fruit de mes bienfaits? L'univers a-t-il vu changer ses destinées? Sais-je combien le ciel m'a compté de journées? Et de ce peu de jours si longtemps attendus, ah, malheureux, combien j'en ai déjà perdu. Ne tardons plus, faisons ce que l'honneur exige, rompons le seul lien.
Non, laissez-moi vous dire, en vain tous vos conseils me retiennent ici, il faut que je le voie. Oh Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer. Et c'est lui qui l'ordonne.
Je me souviens, je ne sais plus à quelle occasion, Raphaël, dans une des émissions, et on commence à en avoir fait un certain nombre, donc parfois je les mélange, mais vous m'aviez dit cette phrase de Bergson, selon laquelle on décide avant de délibérer.
Oui.
Et je pense qu'elle s'applique très bien au cas de Titus.
Oui, Bergson est le philosophe de la liberté qu'il n'entend pas au sens d'un libre arbitre. Mais qu'il entend au sens où... la liberté a partie liée avec la mauvaise foi, et Sartre, de ce point de vue, est un excellent lecteur de Bergson, au sens où on décide toujours avant de délibérer, que la délibération qu'on fait est toujours informée par la décision qu'on a déjà prise. On décide, après on discute avec soi-même. Ce qui se passe dans les stances de Rodrigue, dans le Cid. Rodrigue, qu'est-ce qu'il fait? Il hésite, tu parles, c'est le Cid, il hésite rien du tout. Il sait pertinemment ce qu'il va faire, c'est tout son problème. Mais il a besoin de se jouer cette petite comédie pour donner à la décision qu'il a déjà prise un contour plus digeste. C'est le digédril de la décision qu'il a prise, si vous voulez. Il hésite, quoi. Il a besoin d'hésiter pour que ça passe mieux. Bon. Titus, c'est la même chose, évidemment, ici. Alors, on était chez Corneille, il n'y a pas de stance ici, mais le monologue de Titus, scène 4, acte 4, le monologue, non pas la tirade, parce qu'il n'y a pas de réponse, il est seul en scène, il est seul à parler, le monologue de Titus, ce moment magnifique, est une fausse hésitation. Il commence par dire, mais enfin, je peux faire autrement, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, je peux décider, puis si ça se trouve, les Romains l'aimeront, etc., etc. Il sait bien qu'il n'en est rien, et l'argument de sa propre gloire ensuite, d'ailleurs, est de peu de poids à côté de la nécessité à laquelle il est soumis. Et alors, Il y a deux ou trois éléments qui vont dans ce sens-là et qui sont, je crois, très importants. Le premier, c'est quand il dit « Je viens percer un cœur que j'adore, qui m'aime, et pourquoi le percer ? Qui l'ordonne ? Moi-même. » Alors, ça c'est intéressant parce que il y a beaucoup d'occurrences dans Bérénice où la question de l'identité est elle-même posée. Par exemple, Antiochus à Arsace. Arsace lui dit « Qui doit partir ?» Antiochus lui répond « Moi ». Et Arsace lui répond « Vous ». Et vous, c'est étonnant de cela. Et un peu plus loin, Bérénice dira à Antiochus ceci, « Titus, vous chérissez, vous admiriez Titus, 100 fois je me suis fait une douceur extrême d'entretenir Titus dans un autre lui-même. » La question de l'identité, du « moi », du « vous » est une question fondamentale dans Bérénice parce que, dans l'œuvre de Racine en général, parce que le moi est haïssable, que voulez-vous ? On est en plein jansénisme. L'idée même que le moi, le tout petit moi, le poisson-lune du moi, puisse avoir une quelconque prise sur le destin qui est le mien, est en soi une illusion que Racine bat en brèche. Et c'est pour ça qu'il y a souvent ces interjections. Moi ? Vous ? Comme si on s'étonnait qu'un homme puisse dire moi. Voilà. Comme si on en était stupéfait. Or là, qui l'ordonne ? Demande Titus. Moi-même. Moi-même. Mais c'est pas lui-même qui ordonne d'abandonner Bérénice. C'est les lois de Rome, dont il est lui-même empereur, c'est-à-dire auxquelles il est lui-même soumis. Il est l'esclave de son propre pouvoir. C'est dans Sina, j'ai pas le vers en tête, mais ça donne un truc comme maître de l'univers sans l'être de moi-même, je suis le seul rebelle à ce pouvoir suprême. Les vers exacts ne sont pas ceux-là. L'érection du moi comme un principe de décision se heurte en permanence à la réalité d'une impossibilité et d'une faiblesse. Et alors, à quoi cela tient ? Eh ben, dans le monologue de Titus, un peu plus loin, cela tient encore une fois à ce qu'on peut dire du temps. Que dit Titus à la fin ? D'un temps si précieux, quel compte puis-je rendre ? Où sont ces heureux jours que je faisais attendre ? Quels pleurs ai-je séchés ? En d'autres termes, ça fait 8 jours que je gouverne et ça fait 8 jours que je ne pense qu'à la femme que je ne vais pas épouser. Il y a un moment, il faut faire son travail. C'est-à-dire, il faut en revenir aux problématiques humaines, c'est-à-dire aux problématiques temporelles. Je perds mon temps à vouloir, à me sacrifier, je sacrifie le temps à l'éternité d'un sentiment qui, de toute façon, n'est pas à ma portée. Je suis obligé, en qualité d'empereur, de consentir à l'humanité de ma fonction. Et c'est en cela que, véritablement, on n'est pas empereur de droit divin chez Racine et l'homme est vraiment sans Dieu, me semble-t-il, ici. Je suis condamné, en qualité d'empereur, à vivre dans le temps et à m'indigner, par exemple, du nombre de journées que je passe à faire l'amour, si j'ose dire, plutôt qu'à faire mon métier. Et de ce peu de jours si longtemps attendu à malheureux, combien j'en ai déjà perdu, se dit Titus. Encore une fois, l'objection, elle est là. Tout empereur qu'il est, il est dans le temps. Et étant dans le temps, il doit se soucier de problèmes temporels. Et de ces problèmes temporels, et ces problèmes temporels excluent l'amour tel qu'il l'éprouve pour Bérénice ou tel que Bérénice l'éprouve pour lui, la réciprocité ou la réversibilité de cet amour étant, on n'a pas le temps de le montrer ici, chez Racine exprimée dans la pièce par l'utilisation de chiasme. Sans que de tout le jour Titus voie Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de chiasme dans la pièce pour montrer que ils ont en commun de s'aimer pour l'éternité, c'est-à-dire ils ont en commun d'être incapables de s'aimer puisqu'ils n'ont pas les épaules pour ça. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des humains. Et encore une fois, l'humanité, c'est la douleur de vérifier que on est porteur en nous-mêmes d'une éternité dont on n'est pas capable.
Enfin, il nous reste quand même assez de temps, j'espère, pour donner entendre la fin de la pièce, puisque vous avez dit qu'il n'y a pas de spoiler, donc...
Il n'y a pas de spoiler.
On ne fait pas de mal à nos auditeurs en leur donnant entendre la fin de la pièce.
D'autant que c'est Bérénice qui parle. Le dernier mot est d'Antiochus, mais le reste est de Bérénice. La fin de la pièce, on est donc à la fin de l'acte 5. Avant cela, Titus lui-même s'est expliqué à Bérénice, en lui disant, par exemple, « Vous-même rougiriez de ma lâche conduite, vous verriez à regret marcher à votre suite un indigne empereur, sans empire, sans cour, vil spectacle aux humains des faiblesses d'amour. » Je ne sais plus quel est le nom de cet héritier de la couronne anglaise qui a renoncé au trône parce qu'il avait une maîtresse qui pratiquait la technique du casse-noisette et qu'il est donc tombé éperdument amoureux de sa dextérité sexuelle et que ça lui a valu de renoncer à la couronne. Alors évidemment, ici, rien de la sorte avec Titus, pour sortir des tourments dont mon âme est la proie, il est, vous le savez, une plus noble voie. Je me suis vu, madame, enseigner ce chemin et par plus d'un héros et par plus d'un romain. Bref, je serai empereur, je ne peux pas vous aimer, ma princesse, il faut nous séparer. Bon, à quoi Bérénice répond évidemment, hélas. Et puis Antiochus lui-même fait à Titus l'aveu de la jalousie qui est la sienne. Il lui dit, mais enfin, le pourriez-vous croire en ce moment fatal qu'un ami si fidèle était votre rival ? Mon rival, dit Titus, et oui, dit Antiochus, et voilà, il est temps que je vous éclaircisse, oui Seigneur, j'ai toujours adoré Bérénice, etc., etc. Bon, et c'est après ces deux aveux où finalement tout est clair, Titus dit à Bérénice plus calmement qu'au début, trouve le courage de lui dire, et de lui dire calmement, qu'il leur faut se séparer, que c'est inévitable, que c'est inéluctable, et Antiochus trouve la force de dire à Titus qu'il aime tant lui-même, qu'il en est jaloux, parce que c'est Bérénice qu'il aime. Une fois que chacun y est allé de son aveu, Bérénice prend alors la parole.
Se lève,
ce qui est très important, puisque en s'asseyant, elle s'était départie de sa grandeur royale, en se levant, elle retrouve une grandeur qui n'est pas royale. Puisqu'elle n'est pas, elle ne peut pas être impératrice, elle retrouve une grandeur qui n'est pas royale, mais une grandeur qui est céleste, qui met tout le monde d'accord sur la nécessité, un, du pardon, deux, de continuer à vivre, malgré le fait que vivre est, pour tous les trois, un châtiment plus dur que mourir, comme dirait Maître Miyagi dans Karate Kid. Si vous en venez, ah, que vous n'avez pas vu non plus, mais il faut laisser le mot de la fin, effectivement, après ce trop long et ultime préambule, laissons le mot de la fin à Bérénice, qui donc, c'est important encore une fois, se lève pour dire ce qu'elle a à dire.
Je crois depuis 5 ans jusqu'à ce dernier jour vous avoir assuré d'un véritable amour. Ce n'est pas tout. Je veux, en ce moment funeste, par un dernier effort couronner tout le reste. Je vivrai, je suivrai vos ordres absolus. Adieu, Seigneur. Régnez, je ne vous verrai plus. Prince, après cet adieu, vous jugez bien vous-même que je ne consens pas de quitter ce que j'aime pour aller loin de Rome écouter d'autres vœux. Vivez et faites-vous un effort généreux. Sur Titus et sur moi, réglez votre conduite. Je l'aime, je le fuis. Titus m'aime, il me quitte. Portez loin de mes yeux vos soupirs et vos fers. Adieu. Servons tous trois d'exemple à l'univers de l'amour la plus tendre et la plus malheureuse dont il puisse garder l'histoire douloureuse. Tout est prêt. On m'attend. Ne suivez point mes pas. Pour la dernière fois, adieu, Seigneur.
Les histoires d'amour finissent mal en général. Les histoires d'amour finissent mal en général.
Le Gai Savoir et Bérénice, c'est fini pour aujourd'hui. Et qu'y a-t-il de plus triste qu'une séparation ? Merci à Raphaël, merci à tous, François Connac, Jean-Richard Dufour et Alice Ramon. Alice qui met à votre disposition bibliographie et téléchargement sur le site du Gai Savoir et la page Facebook de l'émission. Mais ne vous en faites pas, les larmes seront de retour la semaine prochaine car nous parlerons de Suran et du suicide, mais d'amitié et d'admiration également. Dans l'intervalle, retrouvez Adèle Vanrette et le nouveau chemin de la connaissance qui vous prépare une série d'émissions sur Machiavel. C'est du lundi au vendredi sur France Culture. Et si vous êtes vraiment en manque de philosophie, vous pouvez également vous rendre sur le blog de Raphaël Antoven où vous attend l'intégralité de ses émissions ou bien vous procurer le dernier numéro de Philosophie Magazine. 17h sur France Culture, tout de suite l'Atelier du Pouvoir, Thomas Vider, Vincent Martini.